Pourquoi va-t-on se confesser? Pourquoi va-t-on se confesser au-delà de l'obligation que nous en fait l'Église, dont on peut dire désormais de cette obligation que ce n'est plus la motivation première des baptisés, des catholiques, ou plutôt que cette obligation d'une confession annuelle n'est plus tenue par les baptisés, en grande partie de notre fait à nous prêtres, qui avons tendance à vous parler de bien des choses, bien d'autres choses, que de l'unique chemin du salut, le Christ. Pourquoi va-t-on se confesser? Est-ce que c'est pour soulager sa conscience? Il ne faut pas le dire trop vite, d'autant que la démarche au début est exactement inverse. C'est toujours désagréable pour tout le monde. J'aime pas ça. Personne n'aime ça. Personne n'aime se souvenir effectivement de... d'exprimer, d'actualiser ses regrets. Personne n'aime ça. Pourquoi va-t-on se confesser? Pour la même raison qu'on va à la messe. Pour la même raison qu'on prend appui sur les sacrements de l'Église. Pour trouver des forces. Pour prendre, trouver ou retrouver des forces. C'est la raison d'être. C'est le bienfait de tous les sacrements de l'Église. Donner des forces, un secours divin, surnaturel, nous appelons ça la grâce de Dieu. Beaucoup d'entre vous me le dites régulièrement en venant ou en partant de la messe, en disant « Ah, ça fait du bien, ça requinque !» Et moi, je l'expérimente régulièrement. C'est réellement une source d'énergie. Je pense souvent à cette anecdote des années 70. Il y avait une voyante très célèbre qu'on avait voulu piéger. Alors, on avait déposé sur ses mains une enveloppe en Kraft. Évidemment, elle ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Et à l'intérieur, il y avait une photo du linceul de Turin. On avait déposé ça sur la main et elle avait dit « Oh là là, c'est fort, c'est puissant, c'est comme une explosion nucléaire. » Jésus emmène donc trois de ses disciples sur une haute montagne pour leur faire prendre un peu de hauteur. Il n'en prend que trois. Il n'en prend que trois pour pas qu'ils puissent se cacher les uns derrière les autres. Pour qu'il se retrouve en première ligne, en face de Dieu, c'est ce qui nous arrive quand on va se confesser, en première ligne devant le Seigneur. Et ils vivent ce qui se passe pour chacun de nous en confession. Il y a le feu de l'amour de Dieu. Voilà, on va brûler nos péchés dans le feu de l'amour de Dieu. On va bien sûr se confesser pour reprendre des forces, mais la difficulté vient du fait que le prêtre, le confesseur, sa mission, notre mission à nous, c'est pas seulement que la personne se relève, qu'elle reprenne sa route, mais qu'elle reprenne dans l'Église, que nous la reprenions comme nous le vivons ensemble. Qu'elle se réconcilie, c'est l'expression du mercredi des cendres, c'est une phrase de saint Paul, qu'elle se réconcilie avec Dieu. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, se réconcilier avec Dieu, avec l'Église, avec les autres, et évidemment avec soi-même. On peut reprendre des forces sans se réconcilier avec Dieu. On peut reprendre la route chacun de son côté. Les deux ne coïncident pas nécessairement. Ce n'est pas parce qu'une personne va retrouver une certaine paix, des forces, qu'elle va se réconcilier avec Dieu, qu'elle va se réconcilier avec l'Église, qu'elle va se réconcilier avec ses proches, ou même avec elle-même. À la transfiguration, Jésus donne à trois de ses disciples la force dont ils auront besoin pour surmonter l'épreuve de la passion. Et pourtant, à ce moment de leur vie, de leur existence, à ce stade de l'Évangile, ils ne sont pas capables d'en prendre la mesure. Et c'est pourquoi Jésus n'a pas d'autre solution que de leur intimer cet ordre, ne parler de cette vision à personne avant la résurrection, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. On va se confesser pour reprendre des forces et je voudrais vous proposer cette année, pendant ce carême, une lecture suivie des évangiles, des grands évangiles que nous avons pendant ce carême. Je fais l'hypothèse que le carême, c'est une catéchèse sur le pardon. C'est bien sûr un exercice pratique, mais aussi c'est un enseignement sur le pardon. Et les évangiles des dimanches de carême correspondent aux quatre grandes étapes du sacrement du pardon, ces quatre grandes composantes. Le regret, nous appelons ça la contrition. L'aveu, la confession proprement dite, le pardon, l'absolution, et puis la pénitence ou la réparation. Alors, mettons de côté le premier dimanche, dimanche dernier, qui était celui des tentations pour le Christ. Pour nous, c'est plutôt le dimanche des transgressions, ou l'évangile des transgressions que des tentations. Et nous verrons dimanche prochain avec la Samaritaine le contenu de la confession, la difficulté d'avouer, d'exprimer, de parler. Le dimanche suivant avec l'aveugle-né, nous verrons la joie du pardon, ce qui lui est essentiel. Ça sera d'ailleurs un dimanche de la joie. Et au cinquième dimanche, avec le retour à la vie de Lazare, la question la plus négligée de la pénitence, de la réparation, puisque la résurrection de Lazare entraîne la condamnation à mort de Jésus. Le pardon, c'est gratuit, c'est un don de Dieu. Dieu seul peut pardonner, il pardonne gratuitement, miséricordieusement. Mais le pardon peut être coûteux. Il peut être coûteux dans les changements que ça implique. Alors, voyons simplement pour aujourd'hui, dans cette lumière de la transfiguration, ce qui fait qu'on va se confesser. Qu'est-ce qui provoque notre conversion ? Et pour cela, je vous invite à contempler ou à méditer ce qui est implicite dans l'Évangile. Le temps qui s'écoule entre le moment où Jésus appelle trois de ses disciples, où il part avec eux, et le moment où il arrive en haut, en haut de la montagne. Le texte dit que c'est une haute montagne. Alors pour nous, évidemment, c'est symbolique, c'est la haute montagne, c'est là où il y a eu le don de la loi, c'est là où effectivement il y a le sermon sur la montagne, il y a toute une symbolique de la haute montagne. Mais la haute montagne dit simplement une chose, c'est que son ascension prend du temps. Et cette marche préparatoire, c'est un élément déclenchant de la révélation. Je vous invite à y penser, à l'imaginer. À quoi, justement, pensaient ces trois disciples en grimpant, en marchant avec Jésus? À quoi pensaient-ils tandis que Jésus les emmenait avec lui?
Bien sûr qu'on peut très bien marcher sans penser à rien. On peut faire beaucoup de choses sans penser à rien.
Mais on ne peut pas marcher avec Jésus. On ne peut pas être avec Jésus, devant Jésus, être avec lui en pensant à rien, sans que l'Esprit travaille notre cœur. En vérité, quand nous le vivons à la messe, quand nous le vivons dans la prière, quand nous nous remettons devant lui, forcément l'Esprit travaille. Et plus il gravissait la montagne, plus d'une certaine façon, ils descendaient en eux-mêmes. Plus ils prenaient conscience, ils voyaient intérieurement ce qui allait pas, ce qui n'était pas digne d'eux, ce qui n'était pas digne de Dieu, ce qui n'était pas digne d'eux avec Dieu. Quand on marche avec Jésus, mais quand on marche vraiment avec Jésus, en faisant attention à sa présence, s'ouvre à notre esprit toutes les contradictions de notre vie. L'Esprit Saint ne vient pas pointer tel ou tel péché. Il nous fait, conformément à la promesse du Christ, nous souvenir de ce qu'il a dit. C'est la parole du Christ qui agit dans notre cœur. Écoutez-le ! Écoutez-le, la voix du Père qui vient de la nuée. Ne dis pas aux disciples, « Ah, souvenez-vous !» Il leur dit, cette parole qui est vivante dans votre cœur, qu'est-ce que vous en faites? Comment est-ce qu'elle vient agir dans votre vie? C'est ce que nous vivons. Tant de moments où vient tout d'un coup résonner une parole de l'Évangile, une parole du Christ. Les personnes qui viennent se confesser viennent rarement par hasard. Vous le savez bien, on y pense, on hésite, on renonce, on y repense. Pourquoi? Parce qu'on se souvient de paroles de l'Évangile. On se souvient du Christ. On écoute simplement son cœur. Le chant préféré des chrétiens aujourd'hui, le tube absolu de nos célébrations, quelle qu'elle soit, c'est « Trouver dans ma vie ta présence ». On le chantera tout à l'heure à la communion. « Trouver dans ma vie ta présence », c'est ce qui part de la grâce du baptême, tenir une lampe allumée. C'est ce qui demande effectivement ce que nous voulons, cette paix intérieure. Choisir avec toi la confiance. C'est ce qui nous ramène à l'essentiel de notre foi. Aimer et se savoir aimer. À la transfiguration, les disciples ont vu la lumière divine parce que l'Esprit Saint avait préparé leur cœur. La confession, ce n'est pas la rencontre de nos péchés, ce n'est pas un regard en arrière, ce n'est pas une façon de se retourner sur sa vie. Nous voyons nos péchés simplement comme une ombre quand nous regardons la lumière du Christ. C'est ce qu'a dit le psaume 35. Dans ta lumière, nous voyons la lumière. Alors pourquoi est-ce qu'on va se confesser? Parce que nous avons entreaperçu à un moment de notre vie la beauté du Christ, la bonté de Dieu, le Christ glorieux, transfiguré. Et on en veut davantage, exactement comme Moïse, avec le buisson ardent. Quel étrange spectacle! Il va faire un détour. Quel étrange spectacle! Voilà un feu qui brûle sans consumer. Voilà un feu qui brûle mais qui n'abîme pas. Voilà exactement le feu de l'amour. Il s'approche et la voix du Père lui dit « Enlève tes sandales, enlève tes chaussures, laisse de côté tout ce qui t'aide aujourd'hui à marcher. » Et depuis le feu de l'amour, Dieu va le mettre sur le chemin de la terre promise pour nous du royaume, sur le chemin de la liberté. Vierge Marie, toi qui es pour nous le buisson ardent, montre-nous ton Fils. Aide-nous à aller nous confesser.